Bonjour mademoiselle.
Bonjour.
Excusez-moi de vous déranger, ça a l'air passionnant ce que vous lisez.
Ouais. Ah oui, ça c'est très beau. Là. En plus, vous intervenez, je suis en train de lire le passage. Vous savez, vous connaissez Anna Karénine ? Tolstoï, Anna Karénine, cette grande idéaliste, cette amoureuse passionnée, avec tous les excès de l'âme slave. Ça vous dit quelque chose ? Oui, bien sûr. Là, c'est la scène cruciale, terrible du livre où justement... C'est la scène de reddition entre Vronsky et elle. Vronsky, c'est ce militaire un peu rustre dont elle est tombée folle amoureuse alors qu'elle est mariée. Et Vronsky, il veut que cette femme cède. Et là, on mesure déjà dans cette scène, rien qu'à l'échange de regards, parce que nous dit Tolstoï, tout ce qui les unit, mais surtout on mesure déjà tout ce qui les sépare, l'abîme qui les sépare. Et oh, écoutez, je vous en dis pas plus, j'ai envie de vous le lire.
Je vous commande un thé russe.
Un thé russe, bien, bien corsé et bien chaud.
Est-ce qu'on peut vous interrompre quand vous êtes en train de lire, Thiago Rodriguez ?
Bien sûr. Je lis surtout au café. Alors, je lis entouré d'interruptions, ouais.
Et ça vous rend bavard ou silencieux de lire un livre ? Est-ce que vous avez envie de le lire aux autres qui vous entourent ?
Ça dépend vraiment du livre. Il y a des livres dans lesquels on plonge et on ne veut pas sortir. Et après, il y a des livres qu'on veut partager chaque passage comme si on souligne à voix haute pour des autres. Même avant d'arriver à la fin du livre, on veut déjà le partager. Il y a des livres qui nous habitent. Si on parle par exemple d'Anna Karénine, c'est un livre qu'on est en train de lire... et mon expérience, et qu'après les personnages, elles continuent à nous accompagner dans les transports publics, au travail, elles nous regardent, elles nous chuchotent à l'oreille, jusqu'au moment où on peut retourner au livre.
Yolande de Kersmaeker, il vous accompagne comment les personnages dans la vie quotidienne ?
Ça m'influence beaucoup, et par exemple un livre comme Anna Karénine, ça devient presque effrayant d'une façon à l'autre. Comment un livre peut rentrer dans ta vie. Mais la question que tu demandais à Thiago, ça dépend aussi de la personne qui est avec toi. Par exemple, Anna Karénina, il y avait beaucoup de passages que j'avais envie de lire à la personne qui était avec moi, la personne que j'aimais, que je disais « Oh, lis ça !» C'est ça, comme je me sens comme ça, comme dans la pièce que nous jouons. Ça dépend, pour moi, ça dépend de la personne avec qui on est. Ce que cette personne signifie dans ta vie, voilà.
Et l'impact d'Anna Karénine dans la vôtre, ça a été positif?
C'est une question très très difficile. Ça m'a donné beaucoup de force. Je reconnais beaucoup dans ce livre, et il y avait des choses que je disais qui me sont arrivées dans ma vie personnelle, que je disais mais non, je deviens folle, c'est pas possible que... Mais alors j'étais en train de lire Anna Karénine et que je dis oui, ça me consolait d'une façon à l'autre, comme ça que je dis non, je suis pas seule à sentir ça. Donc ça m'a influencé, oui. Ça m'a donné de la force pour faire ce que j'ai fait. Enfin, bon, oui.
Il est 20h sur France Culture et on attend des mots qu'ils entrent dans nos vies. On attend des livres qu'ils nous parlent. On attend des auteurs, des issues et des idées. Thiago Rodriguez croit au pouvoir d'un livre posé sur une table, celui d'Anna Karénine, 490 grammes, presque rien, et pourtant, la modification à l'œuvre, la grande transformation à l'intérieur quand on lit le désir. Le philosophe George Steiner écrivait « Nous sommes ce dont nous nous souvenons ». Notre cerveau peut donc retenir un monde et par là, le sauvera. Il y a des mots qui nous poursuivent, des mots comme des mots de passe, qui avec nous traversent les années, les murs et les difficultés. Il y a des engagements à vie avec certains livres. Thiago Rodriguez et le groupe flamand Tejestan créent une nouvelle fiction, juste à côté du livre, Tout contre lui. Dans le spectacle The Way She Dies, deux couples se détachent et lisent Anna Karénine et en observent l'impact sur leur vie. Que ce soit Thiago Rodriguez ou Tejestan, leur travail sur scène, c'est souvent répondre à un livre, répondre à des mots, des textes qui les habitent comme des fantômes. Ce sont des acteurs comme des lecteurs en scène, des corps que les mots ont impactés et qui viennent devant nous en témoigner. Il y a l'idée d'un après, de tout ce qui peut arriver après avoir lu, après avoir vu. On est tenté par la grande vie qui va avec le grand roman. Et soudain au théâtre, on est plusieurs face aux mots, face aux livres. Nous sommes une armée, nous sommes la relève à qui Thiago Rodriguez transmet chaque fois des mots pour vivre autrement après. Nous sommes avec le metteur en scène portugais et directeur du Théâtre National Dona Maria à Lisbonne, Thiago Rodriguez, avec la comédienne Yolante de Kirsmaker du groupe flamand Tejestan, qui fête cette année ses 30 ans. Ensemble, ils présentent le spectacle inspiré d'Anna Karenine, The Way She Dies, c'est jusqu'au 6 octobre au Théâtre de la Bastille, dans le cadre du Festival d'automne à Paris. Dans notre studio, il y aura deux spectatrices de l'expérience Occupons Bastille. Il y aura un appel à un théâtre en Norvège. Il y aura aussi la voix et les mots de Clara Isé qui va chanter. Elle est en concert au Rosa Bonheur à Paris ce 17 septembre. C'est Tous en scène sur France Culture. Et on pourrait commencer par lire un petit extrait de la pièce de Thiago Rodriguez.
« 490 grammes. Le seul héritage que tu m'as laissé a été ce livre. La seule chose qui m'appartient véritablement pèse 490 grammes. Le reste ne m'appartient pas. Ce sont des choses qui se trouvent dans le même temps et dans le même espace que moi, mais elles ne m'appartiennent pas comme ce livre. Les autres livres sont sur l'étagère comme des briques dans un mur. Ce sont des choses. » Ce livre n'est pas une chose, c'est quelqu'un, c'est toi, c'est ma solitude, c'est moi, c'est un monde de 490 grammes, le poids de ma vie.
Thiago Rodriguez, un livre, un monde de 490 grammes, c'est quelqu'un, c'est en tout cas quelque chose dont vous vous servez souvent pour les spectacles qui vous inspirent, ces mondes-là de papier. Je pense au dernier spectacle qui s'appelait Bovary, qui était inspiré d'Emma Bovary. Pourquoi là, la figure d'Anna Karenine, qui est encore une figure de rébellion, de désir, vous a inspiré pour ce spectacle-là?
Le tout début de ce projet, The Way She Dies, était nous. Yolanta de Kersmarker, Frank Verkreusen, Pedro Gil, Isabelle Abreu et moi-même autour d'une table avec le désir de faire quelque chose ensemble. C'est toujours comme ça, c'est les gens et le désir d'être ensemble et de penser ensemble et de jouer ensemble. Et au début, on parlait pas mal de la question des langues, de nos langues, de comment avoir un territoire commun, mais en même temps préserver la différence et comment ça pourrait influencer la liberté sur scène qui est encore une fois un grand désir. Et on partageait quand même des affinités, des idées de l'amour qu'on partage des mots, de la littérature. Et Anna Karenine a émergé comme un exemple. Un exemple que chaque d'entre nous ressentait très fort, même si de façon très différente et avec des niveaux même de connaissance de l'œuvre. Je me rappelle qu'Isabelle était en train de lire Anna Karenine et elle l'a lu pendant qu'on commençait la recherche pour cette pièce, alors que pour Yolanta par exemple, ou Franck ou moi, c'était une mémoire d'une lecture il y a quelques années très forte qui résonnait encore. Pour Pedro, c'était une lecture très proche. Il avait lu il y avait quelques mois avant de notre première rencontre, et soudainement cette idée d'Anna Karenine a commencé à émerger. Et je pense qu'il y a un parallèle entre ce qui s'est passé entre nous et ce qui s'est passé avec Tolstoï, qui a commencé à écrire ce roman en pensant qu'il écrivait un roman à propos de Karenine, le mari, et à propos de Levin, et un roman à propos de ces hommes et de ces différentes façons complémentaires mais opposées aussi d'une certaine façon de regarder le monde. Et il y avait aussi Anna Karenine dedans. Et soudainement, elle a commencé à émerger pendant l'écriture, comment elle émerge pendant la lecture, et elle nous engloutit. Et elle a englouti Tolstoï pendant l'écriture de ce roman, et elle nous a engloutis à nous, et soudainement, la question de la traduction, des langues, du rencontre, était quand même plutôt de l'essence pour nourrir ce rencontre, mais on savait vite qu'au centre de ce rencontre était déjà cette femme, ce personnage. Après, pour moi, c'était très facile de me laisser plonger là-dessus, parce que voilà, tout mon parcours de comédien, écrivain, est marqué par Emma Bovary, par exemple, mais aussi Antigone, au tout début de mes rencontres avec Tejestan, il y a plus de 20 ans. Voilà, et c'est les personnages qui m'intéressent le plus, effectivement.
Et peut-être un mot justement, parce que vous parlez de cette rencontre et cette envie de faire quelque chose ensemble avec le groupe flamand Tejestan et vous, Thiago Rodriguez, sur votre première rencontre en 96-97. Vous avez 20 ans à peu près. Qu'est-ce que ça ouvre dans votre vie, Thiago Rodriguez, la rencontre avec Tejestan?
Beaucoup, artistiquement, presque tout à ce moment-là. J'étais étudiante première année du Conservatoire de théâtre à Lisbonne, très malheureux. Après le conservatoire aussi, très malheureux avec ma présence.
Pourquoi très malheureux?
Parce que voilà, c'était une école traditionnelle que te disciplinait, domestiquait le corps des gens pour les soumettre à une esthétique, à une efficacité qui m'intéressait pas. D'un côté, ça ne m'intéressait pas. D'un autre côté, ça ne m'intéressait pas parce que j'arrivais jamais à satisfaire les attentes des professeurs et des metteurs en scène, etc. Et alors, j'étais pénible. Et l'été, j'ai décidé de faire le plus de formations hors de l'école possible pour confirmer si je devrais vraiment quitter le théâtre comme tous mes professeurs m'ont conseillé. Et là, j'ai retrouvé Tejestan, j'ai vu leur spectacle, je me suis inscrit dans leur atelier. Je l'ai essayé, cette idée d'un comédien qui continue à penser sur scène, qui pense surtout sur scène, qui se prépare comme pour un voyage, mais qui voyage seulement sur scène avec d'autres, avec la possibilité de débat, de vision différente d'une même scène, et qui se nourrit de cette différence de pensée, mais aussi d'être vivant sur scène, d'être dans le réel du théâtre, en rapport avec cette assemblée humaine vivante du public. Et soudainement, je me suis dit, en fait, il y a un théâtre où moi, je peux être heureux. Je sais pas si ce théâtre sera heureux avec moi, mais moi, je serais très heureux à faire du théâtre comme ça. Alors, c'était un peu une épiphanie, et avec la chance que, un an après, en 98, les Tejestan, en fait, Yolenta était très importante là-dessus parce que il votait des noms à inviter. C'était Yolenta qui a poussé.
Qui a voté pour vous?
Oui. Mais pas, elle peut le décrire mieux que moi, mais elle doit avouer, pas parce que j'étais bien comme artiste, mais parce qu'on a eu une longue conversation dans un bar capvertien, en train de danser, discuter la vie, et elle pensait plutôt à cette conversation après spectacle qu'à mes talents pendant le spectacle. Hein? Alors voilà. Non, c'était c'est vrai.
Oui, mais
allez, il faut raconter aux gens comment les choses commencent.
Oui, c'est vrai
que ma carrière en tant qu'artiste international, elle commence
grâce
dans
une
bar capvertien, parce que j'ai ouvert mon cœur, t'as ouvert ton cœur, on discutait du théâtre, bien sûr, mais on discutait du théâtre. Je pense que t'as vu beaucoup plus ce que je voudrais et désirais et pourrais un jour faire que ce que je faisais à l'époque, qui n'était pas tellement spécial, comme l'auditoire de ce programme peut aussi voir quand ils m'entendent lire le texte qui dit beaucoup mieux et qui joue beaucoup mieux Franck dans le spectacle.
Vous vous souvenez de cette soirée, Yolanta de Kersmaker? Vous vous souvenez de cette soirée?
Oui, absolument. Oui. Mais je l'ai décrire à lui à Saint-Pétersbourg. Il a reçu un prix et j'ai écrit un texte sur ça. Pour moi, c'était le tout début parce que pour moi, ça va pas. Enfin, ça ne parle pas. Si je rencontre un comédien comme Thiago, il était étudiant à ce moment-là. C'est pas ce qu'il montre, mais ce qu'il y a dedans. Pour moi, c'est là tout commence. Mais c'est pas là. Enfin, il a décrit parfaitement. Pour moi, ça c'est le plus important. C'est une question d'intuition et de qu'il y a un rapport avec nos corps et avec nos cœurs. Et moi, je sentais qu'il y avait une un grand avenir à venir. Non, c'est, et pour moi, j'étais convaincue. C'est pas parce que ce qu'il a montré là-bas, parce que ça c'est pas important à ce moment-là. Moi je pensais, oui, c'est le début d'un grand voyage. Et voilà, oui, voilà.
Et on est là.
Et vous êtes là. Et d'ailleurs, cette expérience ensemble, ce spectacle de Where She Dies aujourd'hui, autour d'Anna Karenine, c'est une expérience assez inédite pour vous aussi, Yolanta de Kersmaker, avec Tejestan, parce que Thiago le disait, c'est un groupe où les comédiens, les acteurs sont au centre, où il n'y a pas forcément de metteur en scène, où l'écriture, en tout cas le texte, il est préexistant. Vous avez beaucoup travaillé sur des classiques, dont vous vous emparez. Et puis là, il n'y avait pas de texte au départ. Vous vous êtes réunis autour d'une table, vous le décriviez. Vous avez pensé à Anna Karenine. Et puis ensuite, il y a cette histoire. Donc la pièce, ce sont deux couples qui, à des époques différentes, un couple flamand, un couple portugais, se mettent à lire Anna Karenine. Mais ça, ce n'était pas une façon de travailler dont vous aviez l'habitude, de commencer sans le texte.
Ben, on était un peu... C'était pour nous aussi, pour Franck et moi, une grande aventure. Parce que c'était la première fois que Thiago écrivait quelque chose pour nous et qu'on faisait confiance à lui, qu'on disait vas-y. Au début c'était un peu mais moi je dois dire, après un temps, j'étais, parce qu'il nous connaît si bien et on te connaît si bien, et les textes qui sont venus, hein, c'était jour après jour que je disais, mais c'est magnifique, parce qu'il a écrit sur mon corps, sur de la manière que je suis. C'est pas personnel, mais il nous connaît. Et c'était, pour moi, c'était une sorte de déclaration d'amour aussi à nous, et à Isabelle, qu'il connaît aussi très très bien, et à Pedro. Donc, il était vraiment, il n'y avait pas de distance, et ça c'est bien, parce que ça a formé le cœur de tout ce spectacle. C'était en fait comme ça on pouvait aussi le jouer, et parce que c'est vraiment écrit sur notre peau.
Oui, il disait que l'enfantement était vraiment le comble de la réalisation féminine, mais il a quand même créé une héroïne qui est complètement précurseuse du féminisme, en fait, puisque c'est une femme qui n'attache pas une si grande importance que ça à la maternité, ou si ce n'est d'un point de vue quand même extrêmement narcissique, et qui en plus essaye de vivre en fonction de ses appétits, comme il lui fait dire. Moi, j'ai rarement vu dans la bouche d'une femme du 19e siècle, que savent-ils de moi ? Moi, je ne connais que mes appétits, ce qui est quand même une phrase incroyablement émancipatrice.
Oui, mais c'est pas à vous qu'on va expliquer, puisque c'est justement le sujet de votre livre, que c'est une femme de papier. Et donc c'est plus facile avec les femmes de papier de parler de leurs appétits ou de leur émancipation.
Non, mais les romans, c'est des matrices d'idées d'une certaine manière. Donc en fait, c'est vrai que... Mais c'est une héroïne qu'il a quand même créée, donc c'est pour montrer à quel point aussi il était en avance sur son temps, sur son époque, de créer un personnage de femme comme ça, et qui est si puissante qu'en fait, elle va perdurer. C'est un prototype d'héroïne qui perdure à travers les siècles, à travers les pays, à travers les continents, puisque Doris Lessing, d'ailleurs, dans son discours de réception du prix Nobel, cite cette héroïne, Anna Karenine, comme étant aussi le livre que lit une femme africaine dans un comptoir au fin fond de l'Afrique, et qui est une histoire, je ne sais pas si elle est vraie ou pas, mais en tout cas qui témoigne de la force d'un caractère créé par un homme de cette époque, même si c'est une femme de papier, en fait, le roman sert est aussi un outil d'émancipation, parce que le roman est une matrice de pensée. Et donc, en fait, quand on crée un roman, on crée des pensées que les gens vont pouvoir s'approprier, avec lesquelles ils vont vivre, avec lesquelles ils vont progresser et s'émanciper à leur tour. Mmh. C'est ça la fonction du roman, en fait. C'est une fonction d'émancipation.
C'était la voix d'Elisabeth Jacquet qui a écrit un livre sur Anna Karénine et j'aimais bien ce qu'elle disait sur les femmes de papier ou les hommes de papier dans le roman. Thiago Rodriguez et leur impact dans la vie comme matrice de pensée et fonction émancipatrice. Et c'est ça qui se passe dans le spectacle puisqu'il y a ces deux couples qui ont leurs histoires et puis tout à coup Anna Karénine vient s'immiscer là-dedans et la lecture d'extraits et on observe l'impact que ça a sur leur corps, sur leur dialogue, sur leur vie, sur leur rapport.
Absolument. Cette idée de cette femme de papier qui parle de ses apties, en fait, dans le roman, elle dit « mes apties comme disent les Français ». Voilà, ça, il faut le dire, il faut le rappeler. Elle cite les Français. Mais voilà, c'est vraiment un outil, je pense, d'émancipation, de consolation. Le jeu qu'on a joué, c'était un peu en identifiant l'importance d'un tel roman et de personnages comme Anna Karenina dans nos vies, nous qui faisons le théâtre, mais en identifiant aussi cette influence au point de devenir un outil réel de vie pour les lecteurs et lectrices du monde. On s'est dit, voilà, écrivons une fiction et montons un spectacle qui parle de cette influence plutôt que du roman, qui parle de comment le roman traverse les temps, les gens. Alors oui, on a ce couple, années 60, Portugal, dictature, 20e siècle, où la femme...
Lit Anna Karenine en français.
Lit Anna Karenine en français, parce que voilà, parce que le fait que c'est en français est important, parce qu'on parle d'un pays où le français, pendant la dictature, était la langue démocratique plus proche, parce que l'Espagne était aussi fasciste. Alors, années 60, on lisait tout en français au Portugal, tout ce qui était plutôt interdit. Alors, aussi Brecht, pas en allemand, français, Ibsen, pas en norvégien, français. Voilà, toutes les traductions libres étaient en français. Et alors, ça, c'est important. Et ça résonne le fait qu'il y a tellement de français dans le roman en russe, avec des morceaux en français à l'original. Et là, c'est la femme du couple qui lit le livre. Et curieusement, à inverse, Belgique, centre d'une Europe en 2017, une Europe plutôt démocratique, tendanciellement démocratique, c'est l'homme du couple qui se sent trahi et qui cherche Anna Karenine pour se consoler, pour arriver à comprendre cette femme émancipée qui habite chez lui, avec lui, et qui lui dit « je ressens plus, j'ai mes appétits, et mes appétits te concernent pas à toi ». Et alors, on voudrait aussi avoir ces deux portes d'entrée, et en plus, les juxtaposer avec les résonances qu'a le roman pour nous. Alors, cette écriture un peu à la mesure des corps, des voix, de la pensée, qui n'est pas biographique du tout, c'est pas... question de vampiriser la biographie des comédiens, c'est pas du tout ça, c'est de écrire pour la personnalité, pour la pensée des gens, et là, ce jeu-là de juxtaposer les personnages de Tolstoï, la fiction de comment il y a des lecteurs qui vivent différemment à cause de la lecture d'Anna Karenine, et nos pensées à nous étaient vraiment au cœur de cette écriture voilà, très participée, très partagée, qui m'intéresse beaucoup, qui se met au service des désirs voilà communs, des désirs collectifs. C'est comme ça que j'ai appris à écrire. J'ai commencé à écrire en fait en 2007 en pensant comment pourrais-je écrire sans trahir tout ce que j'ai appris avec Tejestan. Ça, pour moi, c'était très important. Et j'ai développé une façon d'écrire avec les comédiens, dans la salle de répétition, Et finalement, après quelques années d'écriture et quelques petites pièces, l'opportunité de le faire vraiment
avec eux,
à nouveau avec Tejestan, pour moi, c'était vraiment preuve de feu d'un processus, de la légitimité de ce processus pour moi. Et de pouvoir voir Yolenta ou Frank aussi, Isabelle et Pedro, mais ils avaient déjà fait des textes à moi, mais Yolenta et Frank se sentir nourris par quelque chose que j'ai écrit, pas seulement à cause de ce qui est en papier, mais parce qu'on connaît très bien ce qu'on a vécu pour arriver à ce qui est sur le papier et qui va devenir maintenant une pièce. Pour moi, c'était vraiment aboutir à quelque chose. Je pourrais m'arrêter d'écrire dans le sens que voilà, ça ferme quelque chose de très forte pour moi, et ça ouvre après plein de choses maintenant, de où en aller, comment continuer. Mais pour moi, c'était vraiment une confirmation de que j'écris à partir du comédien que je suis aussi, de l'artiste que j'ai appris à être, et que j'ai pas dû vendre ou abandonner mes principes de travailler de la façon la plus partagée possible, la plus humaine possible, la plus démocratique possible, pour devenir un écrivain, un auteur de théâtre. Et là, pour moi, ça, c'est extrêmement important, beaucoup plus que le résultat.
Est-ce qu'on peut lire un autre petit extrait, Yolanta de Kersmaker? Il y a un moment, c'est assez drôle, parce que comme vous le disiez, il y a ce couple avec Franck où cet homme se sent trahi et essaie de comprendre cette femme qui lui dit qu'elle ne ressent plus rien. Et puis à un moment donné, il dit « Maintenant, je ne peux plus parler, je lis. Et tant que je n'aurai pas fini le livre, on ne continuera pas la discussion. » Et voilà, ça, c'est un petit extrait de Franck.
« Mon temps ne t'appartient pas. Maintenant, il appartient à ce livre. C'est ça. À sa lecture. » Lire tout ce que ma mère a lu, tout ce que ma mère a souligné. Et je ne ferai plus rien avant d'avoir terminé. Je ne parlerai plus, je ne mangerai plus, je ne travaillerai plus. Je ne ferai rien avant d'avoir terminé. Mon temps, celui que j'étais toujours offert, qui a toujours été le tien, celui que tu as jeté aux ordures quand tu as décidé que le tien ne m'appartenait plus entièrement, ce temps, le mien, n'appartient plus qu'à ce livre. Lire, relire, comprendre. Et on n'aura aucune discussion tant que je ne l'aurai pas fini. Quand je l'aurai terminé, on parlera.
Ça, c'est très fort. Ce livre est plus important que toi. Et la question, c'est est-ce que ce livre, il va pouvoir sauver le mariage, il va pouvoir sauver l'amour?
Il y a quelque chose dans ce bout-là que, en l'entendant comme ça, déplacé de la pièce, devient très clair, qui est que le livre, la littérature, cette idée qu'on entendait Elisabeth Jacqui parler de une force matrice, ça donne une matrice de quelque chose qui peut après émanciper. Cette idée de matrice, c'est l'idée qu'on trouve dans les livres sacrés aussi, par exemple. Et pour un athée comme moi, de dire que Anna Karenina peut être un de mes morceaux de Bible, je me sentirais tout à fait OK avec cette idée de qui est présente là, que tu as un personnage qui est joué par Franck, qui revient dans un moment de douleur, de souffrance, de cœur brisé. Il se donne à ce morceau-là de littérature qui en plus est très fort dans sa vie. Il se donne à ce morceau de littérature pour être sûr qu'il comprend sa souffrance. Là, il y a quelque chose de religieuse, de reconnecter à quelque chose d'essentiel, d'une matrice, d'une pensée. Et voilà, je comprends tout à fait ça. Retourner à un sonnet de Shakespeare pour comprendre une perte. Retourner à un morceau de Rimbaud pour comprendre ma fille de 17 ans. Retourner, voilà, à des choses matrices. Et je pense que c'est ça qui se passe là. Et en plus aussi, une espèce de traduction entre ce qui vit dans le livre Karenine, le mari, qui attend et qui dit « Maintenant, je dois penser, je dois avoir patience, je dois attendre, je dois comprendre, je dois voir qu'est-ce qui se passe vraiment », avec un lecteur d'Anna Karenine qui attend, voilà, le temps suffisant pour comprendre pourquoi sa femme ne le désire plus.
Alors d'abord, essayez de donner au livre la chance de la survie. Notre maître en lecture, Walter Benjamin, a dit « Ne t'inquiète pas si ça dure 500 ans, c'est toi qui es impatient, le livre peut attendre. Mais pour qu'il attende, il doit exister pour qu'un jour on le prenne. » Deuxièmement, responsabilité. Que dit Rilke dans son grand sonnet sur le torse archaïque d'Apollon au Louvre ? Regarde ce torse, qu'est-ce qu'il te dit ? Change ta vie. Qu'est-ce que dit Rilke ? Le torse ou le livre ou la musique ou le tableau qui me dit « change ta vie, prends-moi au sérieux ». Je ne suis pas là pour te rendre la vie plus facile. Kafka qui dit « un livre qui ne brise pas notre cerveau comme une hache ne vaut pas la peine d'être lu ». C'est exagéré, il faut aussi parfois lire des livres légers, des beaux livres qui nous réconfortent un peu, mais c'est important aussi. Répondre à un livre.
Vous avez reconnu cette voix, Thiago Rodriguez ?
Oui, bien sûr, c'est d'une profonde injustice, parce qu'on ne peut pas parler après Georg Steiner. Là, on s'arrête de parler des livres et on fait écho de son.
On arrête l'émission.
De ses mots, quoi.
Et on, ouais.
Non, on n'arrête pas. Il y a de la musique très belle à entendre. Et il y a plein de choses à entendre, mais on s'arrête avec pourquoi les livres, pourquoi la littérature, parce que voilà,
là,
c'est d'une beauté énorme, cette idée-là, cette idée que le torseau d'Apollon dit Rilke va changer ta vie. Je crois profondément à ça. Je pense qu'on passe pas mal de temps de nos vies, nous, je regarde Violenta là, on passe pas mal de nos temps à croire à ça et à le répéter, à le souligner. Et après vient Georg Steiner et en 10 secondes, il confirme tes croyances. Alors moi, je suis heureux et je me tais.
Oui. Georg Steiner, il était présent dans votre spectacle qui s'appelait By Heart aussi, Thiago Rodriguez, où là c'était un hommage à votre grand-mère qui perdait la vue et qui tentait d'apprendre des sonnets de Shakespeare par cœur. Donc on était aussi dans la littérature et dans comment on retient dans la vie les mots qui peuvent changer la vie ou en tout cas l'accompagner. Clara Isé, est-ce qu'il y a un livre qui a changé votre vie ?
Comme ça, brûle pour point, je dirais le Quatuor d'Alexandrie, de Durel.
Et vous aviez quel âge ?
15 ans.
Et ça vous accompagne comment dans la vie quotidienne, ce livre ?
Je crois que c'est un livre qui m'a permis de percevoir vraiment comment parfois le réel a plusieurs facettes. Enfin, c'est une même histoire racontée du coup par 4 personnages. Et qui du coup se déploie complètement parce que en étant dans chaque personnage, on n'a pas du tout le même regard sur les choses.
Clara Isé a commencé le chant à 8 ans. Elle a failli faire une carrière lyrique pour dire l'indicible et puis elle a eu envie de créer son monde à elle. Son EP s'appelle « Le monde s'est dédoublé ». Il est dédié à sa mère, Anne Dufour-Mantel, disparue en 2017, psychanalyste, philosophe. Clara Isé croit donc au pouvoir des mots. Elle sera en concert à Paris le 17 septembre au Rosa Bonheur et le 8 octobre à la Boule Noire.
Je suis Clara Isé, en studio avec Cédine Ovrouz-Bayoff à la clarinette, avec Thiago Rodriguez et Yolande de Kersmaeker. Vous écoutez Tous en scène sur France Culture avec Aurélie Charme.
Ce matin, il est arrivé une chose bien étrange. Le monde s'est dédoublé. Je ne percevais plus les choses comme des choses réelles. Le monde s'est dédoublé. J'ai pris peur, j'ai crié que quelqu'un me vienne en aide. Le monde s'est dédoublé. J'ai accueilli un ami qui m'a pris dans ses bras et m'a murmuré tout bas. Regarde derrière les nuages, il y a toujours le ciel bleu azur qui lui vient toujours en ami. Te rappeler tout pas que la joie est toujours à deux pas. Il m'a dit prends patience, mon ami prends patience. Vers un nouveau rivage, ton cœur est emporté. L'ancien territoire t'éclaire de ses forts, t'éclaire de ses forts. Ce matin, il est arrivé une chose bien étrange. Le monde s'est dédoublé. J'ai senti le temps se fondre un instant sur les visages mêmes. Le monde s'est dédoublé. Vos corps que je percevais hier encore dans leur exactitude ont perdu leur densité. Te rappeler tout pas que la joie est toujours à deux pas. Il m'a dit prends patience, mon ami prends patience. Vers un nouveau rivage, ton cœur est emporté. L'ancien territoire s'éclaire de ses phares. Regarde en dessous de la nuit, il y a toujours le jour qui pose ses lumières sur un coin de la terre. Te rappelant tout pas que la joie est toujours à deux pas. Je te dis prends patience, mon ami prends patience. Vers un nouveau rivage, ton cœur est emporté. L'ancien territoire t'éclaire de ses phares. Regarde derrière les nuages, il y a toujours le ciel bleu azur qui lui vient toujours en ami. Te rappeler tout pas que la joie est toujours à deux pas. Il m'a dit prends patience, mon ami prends patience. Vers un nouveau rivage, ton cœur est emporté. L'ancien territoire t'éclaire de ses phares, t'éclaire de ses phares.
Alors nous sommes sur Radio Debout en direct de la place de la République. Et donc, nous accueillons à Radio Debout une délégation d'Occupation Bastille, qui est une occupation artistique du Théâtre de la Bastille,
oui.
Menée par Thiago Rodriguez, une équipe artistique de comédiens français et portugais, 70 spectateurs et toute l'équipe d'un théâtre. Je leur laisse tout de suite la parole.
Je ne sais pas, vous avez une question ?
On était tourné sur nous-mêmes, trop, nos problèmes d'intermittents.
C'est quoi la question ?
Il y a une cave à la Bastille ?
Il y a un rapport avec le théâtre ?
Quel est le conflit ?
Qu'est-ce qu'on vient oublier au théâtre ?
Vous avez des responsables ?
D'autres questions ?
Veulent-ils rencontrer les nôtres ?
Qu'est-ce qu'on vient chercher au théâtre ?
Nos problèmes d'intermittents ?
Est-ce politique de donner la parole aux spectateurs
dans
l'occupation Bastille ?
Vous aviez l'impression d'une trop grande différence ? Ça n'a pas pris ?
Qu'est-ce que c'est, les bonnes questions ?
Est-ce qu'ils ont des délégués, les spectateurs ?
Qu'est-ce qui m'a modifié ?
C'est quoi la représentativité ?
Qu'est-ce qui fait qu'on n'oublie pas un spectacle ?
Est-ce qu'on peut travailler dans un théâtre et être spectateur ?
Est-ce qu'on occupe le théâtre pour empêcher le théâtre de crever ?
Est-ce que vous savez qu'on a des comédiens portugais avec nous ?
Qu'est-ce qui a été modifié par le spectacle ?
Derrière le rideau, il y a quoi ? Un lit ?
Est-ce que c'est normal ?
Pourquoi ?
Est-ce que vous connaissez la problématique de l'entre-soi ?
Il y a des loges à la Bastille.
Est-ce que vous dormez pendant le spectacle ?
Est-ce qu'un spectateur de théâtre a des droits et des devoirs ?
Est-ce que l'acteur, si on ne se souvient pas de son nom, c'est qu'il a bien joué son rôle ?
Est-ce qu'on peut applaudir si on a dormi ?
Pourquoi la banlieue ne vient pas au théâtre de la Bastille, au musée ?
Christine Coutrice et Estelle Transy sont avec nous en studio. Elles font partie de l'aventure. Elles ont fait partie de l'aventure. C'était il y a 3 ans, pendant 70 nuits et jours. Au printemps 2016, c'était Occupation Bastille, une expérience d'acteur, de spectateur, une sorte d'agora participative. Et là, on entendait un extrait de cette radio éphémère, Radio Debout. C'était pendant Nuit Debout. C'était en avril 2016. Et c'était les questions qui avaient émergé des rencontres pendant Occupation Bastille. Est-ce que vous vous souvenez de toutes ces questions-là, Estelle, Christine ?
Oui, ça rappelle des souvenirs. Après, les questions en elles-mêmes, pas forcément, mais ça rappelle la grande liberté qu'on avait vécue tous ensemble et la créativité.
Qu'est-ce que c'était ces trois mois ensemble avec 70 spectateurs, Thiago Rodriguez, les comédiens, les gens du Théâtre de la Bastille? C'est rare ce temps-là.
Il y a trois mois et il y a aussi tout le théâtre. Moi, je me souviens vraiment de cette impression. On a vraiment occupé le théâtre, tout, les locaux, les bureaux d'administration, les loges. On a lu des poèmes dans les loges. On a les deux salles, les deux scènes. C'était vraiment cette découverte petit à petit. C'était vraiment ouvert, tout était ouvert et on avait le droit d'aller partout. Donc ce temps de trois mois et cet espace qui est aussi grand que ce temps-là.
Christine ?
En fait, c'était un vrai bonheur d'écouter tout à l'heure Thiago et Jolande, parce que en parlant de leur création, ça me parlait aussi d'Occupation Bastille, parce qu'en fait, moi, j'entends un processus similaire qui semble être propre au travail de Thiago. Enfin, peut-être d'autres personnes travaillent comme ça aussi, je l'ignore. La question centrale dans cette occupation, c'était comment être ensemble et qu'est-ce qu'on fait ensemble. Et c'est ce qu'ils nous ont dit tout à l'heure, c'est ce qu'il nous a dit tout à l'heure, ce qui était à la source de ces créations, et comment on va inventer ce qu'on a appelé, ce qu'il a eu l'intuition d'appeler des projets. Donc ça fonctionnait, si une personne propose un truc à faire, n'importe quoi, quelque chose, une action, une pensée, une lecture, comme disait Estelle, il suffit qu'une autre personne soit intéressée par son projet pour que le projet soit validé. C'était le principe de fonctionnement unique et qui nous a fait marcher du début à la fin. Et je retrouve ça enfin c'est vraiment ce que je retrouve dans les créations de Thiago, ou comme à chaque fois que ce soit enfin toutes celles que j'ai vues où il invente à la fois le contenu et à la fois la manière de le faire. C'est l'impression que ça me donne. Alors après, est-ce que c'est un succès, un échec? C'est ce qu'il disait tout à l'heure. Le résultat en fait n'est pas très important. C'est le processus qui se vit pendant ces trois mois auxquels on n'était pas tous présents tout le temps, hein, parce qu'on a nos vies aussi, et donc on avait la possibilité d'être là et de venir, ne pas venir, d'être 70, d'être 2, d'être 12, enfin. Et qu'est-ce qu'on va faire ensemble?
Et qu'est-ce que ça a changé dans vos vies de spectatrices d'avoir vécu ce moment-là, justement, et d'avoir traversé ces espaces, et que les rapports peut-être qui sont parfois, les choses qui sont parfois cloisonnées, là, étaient réunies ensemble?
Déjà, ça, je pense, changer mon rapport avec le Théâtre de la Bastille lui-même, parce que je vois que quand je vois un spectacle au Théâtre de la Bastille, c'est pas la même chose que quand je vois un spectacle dans un autre théâtre. Il y a un peu l'impression d'être chez moi, un peu chez moi. Parce que c'est vrai, comme tu disais, pendant trois mois, on n'était pas tout le temps là, mais la porte, on savait qu'elle était ouverte, et moi, je sais que si je finissais plus tôt le travail, je me disais, mais tiens, je vais y aller. J'avais pas prévu d'y aller, j'y vais. Et donc, je suis venue beaucoup plus que je l'imaginais à ce moment-là. Et donc, voilà, c'est cette impression d'avoir donc déjà ce rapport-là. Et après, en tant que spectatrice, il y a eu aussi un moment... Moi, ma fille avait 8 ans à l'époque et elle est venue une après-midi. Et elle est venue participer à l'ouverture. Et elle était au milieu du décor de Madame Bovary, du spectacle qui était du coup joué en même temps. Et je me rappelle de l'avoir vue assise à un moment avec les feuilles étendues par terre. Et son regard là, je l'emmenais déjà au théâtre, mais je pense qu'il y a quelque chose aussi chez elle qui a changé à ce moment-là, de ce regard-là. Ça fait, je ne sais pas comment dire, ça fait un peu le théâtre qui vient un peu dans nos... Comme tu disais tout à l'heure, dans les cellules, dans la peau, en fait. Du coup, on a ressenti ça un peu avec ce qu'on était, avec le corps, dans ce lieu-là.
Et vous, Thiago Rodriguez, le fait d'être face à 70 spectateurs et cette espèce d'agora où toutes les questions sont possibles, est-ce que ça déplace? Comment vous traversez ce moment-là?
Ah, ça déplace beaucoup, c'est ce que j'ai dit. non. C'est vrai que c'était Géraldine Chailloux et l'équipe du Théâtre de la Bastille qui ont posé le défi en disant on voudrait avoir un projet qui contrarie ce vertige de consommation culturelle de un spectacle différent chaque week-end dans laquelle on tombe très capitaliste, on tombe très facilement dans ça, dans des théâtres d'accueil et même de production et coproduction, etc. On arrive, on a deux jours pour monter, on joue, on part et toutes les villes commencent à se rassembler, tous les théâtres commencent à se rassembler, mais surtout parce que t'as pas le temps pour t'inscrire dans ce théâtre, dans cette ville, pour vivre une histoire, en fait, pour vivre une histoire, pour rencontrer quelqu'un et avoir la retrouvaille le jour après. Et voilà. Et il y avait une envie de contrarier ce système-là ou de le remettre en question. Cette appropriation collective d'un espace physique, ça m'a remis en question beaucoup de choses. Et moi, je venais de rentrer. Ça fait un an que j'étais à la tête de la direction artistique du Théâtre National à Lisbonne. Je dois dire que j'ai hérité beaucoup de découvertes pendant Occupation Bastille que j'ai amené à Lisbonne. J'ai jamais fait une occupation d'Anna Maria, pas encore, mais j'ai appris beaucoup. C'était un entraînement fort pour être à la tête d'un théâtre et surtout pour me rappeler que c'est pas juste une question de combattre l'efficacité, et la consommation, c'est une question de se rappeler qu'en tel bâtiment, il sert à penser autrement, à la divergence, à la transgression. Et pour ça, il faut du temps, de la confiance, il faut de la construction ensemble. Et c'était surtout ça pour moi, c'était la confirmation qu'on est plusieurs à croire que ces espaces, comme le Théâtre de la Bastille, ils existent pour la transgression et la divergence.
Est-ce qu'on peut s'amuser ensemble à répondre juste à une ou deux questions? On a entendu une liste de questions là dans l'extrait de la radio que vous aviez enregistré. Yolanta de Kersmaeker, Thiago Rodriguez, Christine, Estelle. Est-ce qu'un spectateur a des droits et des devoirs?
Oui.
Je suis d'accord.
Tout le monde est d'accord?
Oui.
Ouais.
Est-ce qu'on peut applaudir si on a dormi?
Oui.
Ah oui.
Yolanta n'est pas sûre.
Oui, parce que c'est pas parce qu'on ferme les yeux qu'on dort. Donc ça, je ne sais pas. Il y a des gens qui regardent avec les yeux fermés, ils écoutent. Je connais des gens comme ça, donc je suis là.
Pour moi, ça dépend. Si on ronfle, on peut pas applaudir.
Ça, c'est vrai.
Est-ce que tu peux voir un spectacle sans travailler?
Malheureusement, oui.
Ça dépend des spectacles. Qu'est-ce qui fait qu'on n'oublie pas un spectacle? L'émotion.
Si ça change quelque chose dans ta tête, s'il y a quelque chose qui fait un clic, qui bouge quelque chose. Ouais. Mais ça peut être une phrase, un mot, une geste.
Pour moi, la sensation que c'est personnel pour eux et pour moi, cette coïncidence, que les choses sont personnelles, ce qui se passe, ouais.
Peut-être quelque chose qui me dit que la vie est plus grande que ce que je croyais.
Hello everybody. Hello everybody on the other side.
On parlait de l'importance du lieu, du théâtre, Thiago Rodriguez. Et je vous ai demandé s'il y avait un théâtre dans le monde qui comptait pour vous. Il y en a forcément plusieurs, mais vous m'avez parlé de la Norvège et de Bergen. Ça ressemble à quoi, ce coin où vous allez souvent? Ce théâtre?
En fait, c'est un théâtre qui n'existe plus, alors que l'idée de théâtre continue. Sven Birkeland, il dirige une équipe au Théâtre Garaschen, au Beat de Bergen, qui était en théâtre. Encore une fois, la première fois que j'y étais, c'était 98 avec l'été Gestan.
C'est passé beaucoup de choses en 97-98.
C'est après Paris, la ville du monde où j'ai joué plus de fois.
Bergen.
C'est Bergen.
Ouais.
C'est en premier Paris, après Bergen. Alors, hors du Portugal, bien sûr.
Toulouse, non?
Non, plus de fois. Paris, peut-être Toulouse et Bergen sont... J'ai joué 9 fois à Bergen, quand même. Je sais pas, je vais faire mais Toulouse, Théâtre Garonne, bien sûr, c'est une des maisons. Hors la France, clairement, Bergen, sans avoir bâtiment. Finalement, ils auront un bâtiment bientôt. Mais j'ai joué dans le théâtre, comme Yolanta a joué dans ce théâtre qui était démoli. J'ai joué plein de fois invité par Theatergaraschen dans plusieurs théâtres de Bergen et j'espère bientôt jouer à nouveau dans Theatergaraschen quand il sera construit.
Alors, normalement, on a avec nous depuis Bergen, depuis la Norvège, Sven Birkeland.
I can hear you. Can you hear me?
Yes.
Yes.
It's working.
Okay,
hi.
On va avoir besoin d'un petit peu d'aide de traduction, Thiago Rodriguez, parce que Sven ne parle pas français.
Sven, I'm going to try to translate into French what you say. So we're going to have a Norwegian speaking English and a Portuguese translating into French. So that's going to be fun. It's going to be like our meetings in Bergen.
Sven Birkeland, comment on construit une histoire avec un artiste, un metteur en scène, un auteur comme Thiago Rodriguez dans le temps, sur des années comme ça? Qu'est-ce qu'on écrit entre un lieu et un artiste?
Thiago is amongst the artists I've been working along with. I mean, Violente sitting next to you in the studio from Tegetan.
Voilà, je suis un des artistes avec lesquels il a un rapport long terme, même s'il y a Violente à côté de moi au studio avec laquelle est le Tegetan, il a un rapport encore plus ancien. Et après, il mentionne en espèce de chocolat. Avec la forme d'un œuf, je sais pas si ça existe en France, Kinder, c'est un chocolat avec des surprises dedans, c'est un œuf.
Le Kinder, on connaît bien, le Kinder surprise.
Voilà. Kinder surprise avec trois couches et il me compare à ce chocolat.
Bon,
c'est
surprise.
C'est une des meilleures adjectivations que j'ai eues de ma vie.
For me, Thiago is the absolutely super example of absolute. These are the three components. Why Thiago for me is a great artist.
Je suis en Kinder surprise parce que je suis curieux, je prends des risques. Deuxième push parce que j'ai une boîte à outils, un savoir-faire et à la scène et hors la scène qui m'aide. Et voilà parce que je suis un mec plutôt ok. Avec un cœur ok,
un grand cœur.
Ça il est bien
et qui n'a pas peur de se tromper aussi.
Sven Birkeland, on parlait dans cette émission de quelles questions on se pose quand on dirige un lieu ou quand on invite des gens, comment on investit un espace, qu'est-ce que ça veut dire? Ça fait plus de 30 ans que vous travaillez, que vous essayez de trouver des jeunes artistes. Comment on fait pour, quelles sont les questions en tout cas importantes pour vous aujourd'hui que vous vous posez?
A mission for us is to be continuously curious.
Notre mission dans les théâtres est évidemment de continuer à être perpétuellement curieux, de questionner qu'est-ce que le théâtre et la danse peut devenir au lieu d'affirmer le théâtre et la danse, c'est ça. Alors que dans ce questionnement, on nous questionne évidemment aussi la société, que notre mandat est d'énerver. Ça, je le trouve très beau. On a le mandat de emmerder un peu la société, de questionner, parce qu'on a une mission aussi artistique que humanistique et politique, et c'est très important de ne pas avoir peur de prendre des décisions impopulaires en énervant la société.
Merci beaucoup Sven Birkeland, en direct de Bergen, en Norvège. Pour terminer, est-ce que vous auriez, vous, Thiago Rodriguez, Jolante de Kirsmaker, une question à adresser au théâtre aujourd'hui? Et est-ce que vous pouvez le faire en français et en flamand et en portugais, parce qu'on n'a pas assez entendu de langues ce soir?
Une question adressée au théâtre. Ah, bah, c'est...
En général, vous voulez
comme,
dire?
Comme les questions qu'on a posées tout à l'heure, ce genre de questions.
Si je suis sincère, j'ai des questions à poser à travers le théâtre. Et bien sûr, quand on fait ça, on questionne le théâtre, la pratique théâtrale, la pensée théâtrale. C'est comme... Je ressens un peu le théâtre comme un organe. Je ne parle pas avec le théâtre. C'est une partie, c'est comme... Il est à côté du foie. Mmh. Il y a le foie qui a une fonction, et en moi, il y a aussi l'organe théâtral. Et je me sers de lui. Et je sais quand je me sers de lui, nécessairement je le pose des questions. Pour moi, c'est toujours une question qui me qui m'accompagne toujours. C'est comme une crise de foi. Chaque fois que je dis avec le théâtre que le théâtre peut changer des choses, je suis intimement en train de demander à moi-même et au théâtre en tant qu'activité, est-ce que ça sert vraiment à quelque chose? Qu'est-ce qu'on fait là? Mais c'est cette fragilité, cette vulnérabilité, elle est nécessaire dans cet exercice d'interférence avec le monde, de dire que quand même ce qu'on fait est dans le monde. On n'est pas au théâtre en train de faire une parenthèse dans la vie des gens, même si le public légitimement a, voilà, le droit, par exemple, de penser qu'il s'arrête sa vie quand il rentre le théâtre. Moi, je crois que nous, on a le devoir de dire non, ça fait partie de la vie.
Et comment on dit en portugais, qu'est-ce qu'on fait là?
O que é que estamos aqui a fazer?
Yolanta de Kersmeca?
Mais pour moi, ce n'est pas une question au théâtre. C'est... En fait, c'est une question au monde, en fait, aux gens. Et alors, je demanderai aux gens, est-ce que... Et ça parle de je ne sais pas si ce mot existe en français, l'essentialité, l'essentiel, la nécessité du théâtre. Pour moi, le théâtre est nécessaire dans le monde, dans ce monde. Surtout dans ce monde qu'on vit aujourd'hui, qui est vraiment que le contact direct, le fait que c'est vivant, qu'on est là ensemble avec des autres gens et qu'on fait qu'il y a un dialogue direct qui vit, qui est vibrant. Ça, c'est quelque chose le fait que c'est essentiel et que j'espère que ça disparaisse pas. J'ai 3 enfants et j'ai mon grand, grand souhait, l'inquiétude que j'ai, que ça part, que dans 100 ans, il n'y aurait plus de théâtre. Ça, c'est quelque chose qui me donne la force de le faire, en fait. Donc, c'est pas une question. C'est
une affirmation.
Une affirmation au monde que je veux montrer que c'est essentiel. Que c'est un essentiel. Et alors là, c'est comme, comme les gens viennent ensemble chaque dimanche pour dans l'église, dans le temps, enfin parce que maintenant ça, chez nous ça n'existe plus presque. Maintenant pour moi l'endroit du théâtre c'est un endroit où on vient ensemble, c'est quelque chose de religieux en fait. Ça peut être religieux. Mais oui, peut-être c'est un peu bizarre, mais ça c'est un souhait. Ça c'est le.
Et le théâtre est nécessaire en flamand, ça donne quoi?
De notre cercle quête. De notre cercle quête van théâtre. Ja. Het is een levend iets. Het vibreert. Somewhere down the road, I'll see you again. I don't know where. I know you'll be the same. And I know.
On a commencé en Russie avec Anna Karenine. Les accents ont été portugais et flamands. On aura fini en Norvège. Tous les mondes sont en scène. Je dis merci à Delphine Lemaire pour la réalisation de cette émission, à Inès Duperron pour la préparation et à la technique ce soir. Merci à Guillaume Ledu et Lucas de Rhodes. En attendant, il sera bientôt 21h, vous écoutez France Culture et c'est l'heure de retrouver Théâtre et Compagnie avec Blandine Masson. Stars up in the sky, well,
They're on their own, and I know